Villiers de l'Isle-Adam, le réalisme dans la peine de mort. Les considérants d'un ordre très élevé au nom desquels un projet de loi sur les exécutions à huis clos vient d'être rejeté par la Cour d'appel de Paris m'encouragent à livrer aux méditations du public, à simple titre de documents humains, les quelques notes suivantes, crayonnées place de la Roquette, sous les fumeuses lanternes de notre monument de supplice au cours de la dernière exécution, celle d'un anonyme. À cet angle de la rue, au coin d'une guinguette en lumière, se boucle d'un poste la ceinture de garde à cheval qui en serre la place. Quelle foule depuis minuit ! L'inspecteur de service prend nos cartes. Nous entrons. Autour de nous, la place est déserte et obscure. Sous les arbres, là-bas, passent des lueurs, des ombres humaines. Je m'approche. Entre deux rangs d'uniformes noirs, sorte d'allée vivante, un intervalle de 20 mètres est laissé libre. Il s'étend depuis le portail de la prison jusqu'au dallage de l'endroit pénal. Aux alentours, une centaine de publicistes causent la voix basse. Leur teinte, on dirait les pleurs sonores du glas. À ma gauche, je vois des sabres briller. C'est un gros de gendarme à cheval, massé dans l'ombre. Traversons. Mais qu'est-ce que ceci ? Je me trouve auprès d'un objet isolé qu'éclaire d'un haut la lune et d'en bas deux falots posés à terre. La chose est d'un brun rouge. Elle éveille l'idée d'un haut prie-dieu, Moyen-Âge. C'est placé là de plein pied. Entre les montants de cette cathèdre, je distingue, accroché au sommet, une suspension de fonte, noircie, carrée comme un sac de soldat, et sous laquelle s'emboîte au centre le biais terne d'un hachoir. Ah, c'est la Louisette. Quoi, plus d'échafaud ? Non, les 7 marches sont supprimées. Signe des temps. Guillotine de progrès, dont on ne se range que comme de la courroie de transmission d'un moteur. En vérité, ce meuble pourrait servir à couper le pain chez les grands boulangers. Ou donc la simple dignité de la loi, l'indémodée solennité de la mort, la hauteur de l'exemple, le sérieux de la sentence. Phrase, paraît-il, tout cela. C'en est une aussi de dire cela, car on ne sort pas des phrases sur la terre. Les uns se traduisent en phrases viles, les autres en phrases nobles. Chacun son choix, et l'on n'est pas libre de choisir. C'est fait en naissant de quelques sourires que l'on essaie d'en douter. Passons. Pendant que je regarde flotter sur le miroitement de la large lame l'ombre des feuillages environnants, cette lame disparaît tout d'un coup. J'entends un choc sec et lourd, amorti par des ressorts, pareil à celui d'une demoiselle enfonçant un pavé. Ah, je comprends. C'est un essai. La planche mortelle s'est couchée sur sa coulisse comme une rallonge de table, plagiant ainsi le chevalet du classique Procuste. Rien de nouveau sous la lune. Donc l'on répète ici le drame pour les accessoires. Ah ! J'aperçois soudain à côté de moi le metteur en scène lui-même, qui échange un coup d'œil oblique avec ses deux ravigégisseurs. En face de l'instrument se tient quelqu'un. Oh, monsieur le chef de la sûreté, je crois, devant l'ascension duquel on a fait jouer la tragique mécanisme. Il approuve de la tête en silence, puis tire sa montre dont il essaie de distinguer l'heure. Ayant résumé l'oubli d'un regard, il se dirige vers le seuil de la prison pour les derniers ordres, car le petit jour blanchit peu à peu l'espace, les choses et les silhouettes. Lanternes et réverbères jaunissent. Le moment approche. Chacun pense, dort-il ? Le geôlier chef qui passe affirme que oui, et profondément. À l'entrée, auprès d'un fourgon, je vois une forme noire, un prêtre. Or, c'est l'aumônier. Je viens à lui. Sa voix est fort émue, ses yeux sont en pleurs. Il a le frisson. Il est tout jeune, long et blond. C'est sa première tête, mais on l'appelle à voix basse. Il est temps de réveiller le dormeur. Il entre, suivi des 5 ou 6 témoins d'ordonnance. L'exécuteur et ses seconds ferment la marche. Leur réapparition, augmentée d'un nouveau personnage, se produira désormais sous 30 ou 35 minutes au plus. Je m'éloigne donc et je me promène dans une allée vers la foule lointaine. Les étoiles pâlissent. On commence à s'entrevoir. Je suis un peu pensif, je l'avoue. De cette guillotine moins l'échafaud, de cette chute un peu trop basse en vérité du couteau légal qui a l'air de s'abîmer dans une souricière, se dégage pour tout esprit l'impression de ne sait quelle grossièreté dérisoire commise envers la loi, la nation, l'humanité et la mort. Ce sans-façon trivial, cette exagération dans le terre-à-terre de l'instrument justicier, n'est ici que de la plus choquante inconvenance. Guillotine d'un peuple d'hommes d'affaires. L'aspect de l'appareil semble en effet nous dire avec un prudent mi-spécieuse. Tel individu a tué, soit. Nous l'expédions donc à son tour, de la manière la plus brève, la moins cruelle possible, c'est-à-dire en gens pressés, pratique avant tout et peu soucieux du théâtral, du déclamatoire. Pour lui épargner quelques secondes d'angoisse inutile, nous avons supprimé les marches d'un Moyen-Âge aujourd'hui démodé, ce qui réduit la peine au strict nécessaire. Mais nous, qui cela ? Tout d'abord, cette mesure doit être illégale, car une loi, quelque ancien décret, un droit de coutume française, au moins, que la Révolution elle-même adopta 1000 et 1000 fois, ont dû prescrire l'échafaud, stipuler sa hauteur approximative et son ensemble formel, comme condition expresse, réglementaire, du fonctionnement normal de la peine de mort. Or, cette loi, ce droit, ce décret, n'ayant pas été rapporté par les chambres, nul particulier, se couvrit-il d'un assentiment tacite ou verbal quelconque, n'a licence de les abroger ni de les modifier à mesure et au gré de son fantaisisme. Quant à la prétendue philanthropie de cet adoucissement, premièrement, le condamné qui s'évanouit durant la toilette, anesthésié par sa syncope, ne ressentira nul surcroît d'horreur pour quelques marches qu'on l'aide à monter. D'ailleurs, se laisser porter en cette circonstance, c'est mériter d'être porté. Et deuxièmement, celui qui, d'une conscience enfin réveillée, peut-être par l'expiatoire agonie quotidienne qu'il a subie depuis l'heure de son arrêt, tient maintenant à bien montrer que, sans exagérer terreur ni vile forfanterie, il meurt du moins mieux qu'il n'a vécu, a droit en toute éventualité à ce que son désir prévaille ici. Les marges de l'échafaud sont en effet la propriété de tout condamné à mort, et c'est le frustré d'une illusion, quand même sacrée, que de lui ravir avec elle l'occasion de sauvegarder en nous, s'il y tient, sa triste mémoire d'une aggravation d'opprobre immérité. Bref, en abaissant à ce point son instrument de mort avec des allures d'une obséquiosité déplacée, d'une sensiblerie louche, la loi n'a pas à donner à celui qu'elle punit l'exemple du cynisme. Il ne peut que trop se passer la plupart du temps de cet encouragement-là. Quant au théâtral et au déclamatoire, on ne l'évite pas. On conserve les mille fantasmagories d'un cérémonial suranné, les hermines et les lobes rouges de la cour d'assises, le ton solennel de la sentence, le déploiement nocturne des troupes, le salut funèbre des sabres, l'embrassement du prêtre, qui ne doit plus sembler à d'aucuns qu'une dernière concession au Moyen-Âge, une perte de temps. Toute cette antique mise en scène de mystérieux symboles, on la tolère. Mais en éludant comme oiseux celui de l'échafaud qui seul les conclut, les sanctionne et en rétracte l'intime réalité. L'on dément le respect des lords douteux dont on fait bien de les honorer jusqu'alors, et l'on comprend ainsi le sérieux de tout le reste de la loi, ce qui ne peut qu'inquiéter gratuitement les dernières consciences. On ne peut supprimer un anneau dans la chaîne des symboles de la loi sans infirmer les autres et faire douter de leur gravité. Au dire de quelques-uns, la presse qui entoure la guillotine, aujourd'hui, suffit à la publicité de l'exécution. La plateforme ne ferait plus que double emploi. Mais c'est le fait unique de tuer au grand air qui constitue la publicité donnée par la loi. La presse n'est là que pour constater cette publicité même, dont elle fait partie, et pour la divulguer ensuite à la foule, comme le vent qui passe en portant un cri. La plateforme notifie tout autre chose. En effet, l'État, s'arrogeant ici froidement un attribut d'un caractère extra-vital, absolu, divin, pour ainsi dire, l'échafaud, dans son figuré, doit être élevé au-dessus du niveau moyen des têtes humaines que parce qu'il représente et matérialise le terrain supérieur de la loi, qui, au-dessus de toute vengeance individuelle ou sociale, avertit et préserve seulement au moyen de l'expiation même, et qui ne pouvant en aucun cas descendre jusqu'au criminel, l'élève jusqu'à elle pour ne le frapper qu'à hauteur d'humanité. La guillotine, en un mot, n'est qu'un billot perfectionné, lequel n'a de raison d'être que sur sa plateforme officielle. Elle et lui sont d'ensemble. Une même dénomination sombre enveloppe leur ombre commune. Aux yeux de la foule, les marges de l'échafaud sont impressionnantes pour le même motif que les gradins d'une estrade sur laquelle on distribue des récompenses sont honorifiques. Car ce n'est pas sur un échafaud d'où l'on puisse descendre, ni sur un tel échafaudage que monte ici le criminel. Être monté sur l'échafaud signifie que l'on y est mort. Et ce qui constitue l'exemple, bien plus que le spectacle restreint du fait, c'est la tradition d'effroi de cette parole autour d'un nom. Avoir été guillotiné n'est qu'une locution elliptique, sous-entendant quand même sur l'échafaud. De telle sorte que soustraire celui-ci de l'exécution, c'est faire mentir la loi, c'est avouer qu'on ne l'ose plus qu'à demi, ce qui est d'une timidité indigne d'une jurisprudence respectée. Concluons. Si, comme on nous l'affirme, cette étrange modification n'est due qu'à l'imaginatif de feu l'exécuteur précédent, je trouve qu'il a excédé ici son mandat. Qu'il ait amélioré l'économie de la machine, rien de plus louable, mais qu'il ait touché à ce qui doit la supporter, ceci n'était plus de son ressort. Ce fut là du zèle et l'esprit de la loi ne saurait s'inspirer dans l'espèce des uniques lumières de ce conseiller. Or, cette guillotine tombée, sournoise, oblique, dépourvue de l'indispensable mesure de solennité qui est inhérente à ce qu'elle ose, a simplement l'air d'une embûche placée sur un chemin. Je n'y reconnais que le talon social de la mort, c'est-à-dire l'équivalent de l'instrument du crime. Bref, on va se venger ici, c'est-à-dire équilibrer le meurtre par le meurtre. Voilà tout, c'est-à-dire commettre un nouveau meurtre sur le prisonnier ligoté qui va sortir et que nous guettons pour l'égorger à son tour. Cela va se passer en famille. Mais encore une fois, c'est méconnaître ce qui peut seul conférer le droit de tuer dans cet esprit-là, de cette façon-là. L'ombre que projette cette lame terne sur nos pâleurs nous donne à tous des airs de complices. Pour peu qu'on y touche encore d'une ligne, cela va sentir l'assassinat. Au nom de tout sens commun, il faut exaucer à hauteur acceptable notre bio national. Le devoir de l'État est d'exiger que l'acte suprême de sa justice se manifeste sous des dehors mieux séants. Et puis, s'il faut tout avouer, la loi, pour sa dignité même, qui résume celle de tous, n'a pas à traiter avec tant de révoltant dédain cette forme humaine qui nous est commune avec le condamné. Et en France, définitivement, on ne peut saigner ainsi à ras de terre que les pourceaux. La justice a l'air de parler argot devant les dalles. Elle ne dit pas « ici l'on tue », mais « ici l'on rogne ». Que signifient ces deux cyniques ressorts à boudin qui amortissent sottement le bruit grave du couteau? Pourquoi sembler craindre qu'on l'entende? Ah, mais mieux vaudrait abolir tout à fait cette vieille loi que d'en travestir ainsi la manifestation. Où restituons à la justice l'échafaud dans toute son horreur, salubre et sacrée? Où reléguons à l'abattoir, sans autre atterrement homicide, cette guillotine déchue et mauvaise qui humilie la nation, écœure et scandalise tous les esprits et ne fait grand-peur à personne? Cependant, on a regardé comme inopportune, paraît-il, la réclamation présentée à ce sujet par divers notables écrivains de la poésie française. Et on a présumé même que cette question ne la regardait pas. Nous ne voulons répondre à cette fin de non-recevoir que par l'exposé du raisonnement suivant, dont l'évidence est à nos yeux tout à fait indiscutable. Les juges de la cour d'assises ne font que traduire en langue légale l'arrêt prononcé par notre délégué social, le chef des jurés. Or, en dehors de la direction des débats pour la mise en lumière exacte du crime, on ne saurait contester l'influence quand même, sourde, secrète, que les froids commentaires de la presse font peser pendant le cours du procès sur l'opinion souvent indécise, mal formée et un peu insoucieuse de la foule, partant sur la détermination des membres même de ce jury, lequel en son ensemble n'est que le mandataire de la conscience publique. Inconsidérés ou profonds, ils ont lu nos paroles. Elles ont eu quand même, à leurs yeux, un poids, dont celui du couteau n'est souvent que l'incarnation, l'ensemble incorporé. La main qui nous appuyons sur la langue est dangereuse. Elle décide parfois, on nous l'a reproché, la chute du plateau mortel, si bien que telle de nos plumes en garde un reflet de sang. Tant pis pour nous, nous dit en notre conscience la loi, si vous n'êtes pas à la taille de vos paroles, et si ne leur accordant que peu de portée, vous n'en pesez pas les conséquences, et si enfin vous ne savez ce que vous dites, moi je gis en silence d'après leur sens intrinsèque et leur impression sur la foule. Le chef de l'État lui-même en dernier ressort, non seulement ne peut se soustraire tout à fait à l'influence de ces paroles qui ont moulé l'opinion sur elle, comme les brins de neige deviennent l'avalanche, mais n'étant lui-même que l'expression du suffrage de la foule, Il doit en tenir un compte des plus graves, presque définitifs, sans quoi la grâce ou la mort ne dépendent plus que de son arbitraire isolé. Son droit suprême d'en décider serait un apanage en contradiction avec le principe qui lui confère le pouvoir exécutif. Et il n'est d'ailleurs pas fâché, le bon vieillard, de rejeter autant qu'il le peut sur nous seuls la plus lourde part de cette responsabilité. Il ne faut donc pas nous le dissimuler. Nous sommes loin d'être étrangers à la plupart des sentences de mort dont s'ensuit une tête. Nos propos conseilleurs, parfois persuadeurs, ont été d'une pesée obscure sur cette tête. Nous aurons beau nous en laver les mains, ces ablutions seront vaines. Et la presse est si bien mêlée à la sentence qu'il semble tout naturel que, mêlée aussi à la force publique, elle entoure la machine aux heures fatales et fasse, pour ainsi dire, partie intégrante, complémentaire de l'exécution. Si donc la presse est à ce point prépondérante en ce qui normalement touche à l'application de la peine de mort, comment n'aurait-elle pas qualité pour se préoccuper du mode physique de l'application de cette peine? Il nous semble qu'elle a le droit d'être écoutée ici, attendu qu'elle peut, ici du moins, conclure en connaissant d'une cause qu'elle eut souvent le loisir d'étudier de près. C'est pourquoi, si les marges de l'échafaud sont jugées convenables par la presse, c'est qu'au fond l'opinion publique aussi le juge convenable, pour ne pas dire plus, et que par conséquent, cette revendication doit être prise au sérieux lorsque la presse en vient à la formuler. Oui, tout le monde s'écœure depuis longtemps des impressions de boucherie que cause cette guillotine absurdement embusquée au ras du sol. Quelque positif que puisse être le raisonnement, si toutefois il y a eu raisonnement, en vertu duquel tel ou tel personnage a pris sur lui de soustraire les marches légales de l'échafaud, est-ce qu'on les aurait vendues aussi en sous-main? Nous prétendons que cette guillotine de basse-cour est choquante pour notre humanité. Comme j'achève ces réflexions moroses, j'entends un cri lointain, suivi d'une rumeur. Un curieux, on dirait que c'est toujours le même, vient de se laisser choir d'une échelle d'où il voulait mieux voir. Et dans sa chute, c'est, au dire d'un gardien, fracturer la boîte osseuse. On l'emporte agonisant. Tout à l'heure, il eut traité de farceur, celui qui lui chuchotait à l'oreille, « C'est toi qui passes le premier. » Ah, quel rêve cette vie, quel feu de paille attisé par ces ombres. Cependant, la foule n'accorde aucune attention à ce décès. L'incident n'est pour elle qu'une sorte de levée de rideau. Ce défunt banal vient d'essuyer la planche. Et pourquoi ce repas n'intéresse-t-il personne? N'est-ce donc pas mourir qu'on est venu voir? Non, pas précisément, puisque cette tête brisée vaut tête coupée. D'ailleurs, derrière ces arbres, ces chevaux, à cette distance du drame, la foule sait bien qu'elle ne verra pas couper la tête. Alors pourquoi vient-elle passer la nuit, ici, debout, dans le froid et les ténèbres? Pour communier moralement et de plus près possible avec l'horreur d'un homme qui, seul entre les humains, est averti de l'instant où il va mourir. C'est, joint à la célébrité sinistre de cet homme, la seule solennité de sa mort qui fascine la foule et l'épouvante. C'est enfin ce qui reste de l'échafaud dans l'imagination de cette foule qui l'impressionne, la moralise peut-être, et lui donne à réfléchir. Et non point la mort en soi, laquelle n'est qu'un fait secondaire, qu'elle voit tous les jours, pour lequel elle ne se dérangerait pas. Attendu, vous le constatez, que le phénomène en est si insignifiant à ses yeux qu'elle vient d'y demeurer complètement indifférente. Rapprochons-nous. C'est pour dans quelques instants. Me voici tout auprès du sombre instrument. J'ai pris place dans une sorte d'éclaircie de l'allée vivante dont il a été parlé. Il faut examiner jusqu'à la fin tout cet accomplissement. 4h30 sonnent. Les formalités du réveil et de la hideuse toilette sont terminées. À travers la petite porte, scindée dans le portail même de la prison, je crois qu'on lève la grille de l'intérieur. Le condamné est en marche vers nous, déjà sous les galeries, et avant un instant... Ah ! Les deux vastes battants du noir portail s'entrouvent et roulent silencieusement sur leurs gonds huilés. Les voici tout grands ouverts. À ce signal, vu au lointain, de tous côtés, on se tait. Les cœurs se serrent. J'entends le bruissement des sabres. Je me découvre. L'exécuteur apparaît, oh, le premier cette fois. Puis un homme en bras de chemise, les mains liées au dos. Près de lui, le prêtre. Derrière eux, les aides, le chef de la sûreté publique et le directeur de la prison. C'est tout. Ah, le malheureux. Oui, voilà bien une face terrible. La tête haute, blafard, le cou très nu, les orbites agrandies, le regard errant sur nous une seconde, puis fixe à l'aspect de ce qu'il aperçoit en face de lui. De très courtes mèches de cheveux noirs, inégales, se hérissent par places sur cette tête résolue et farouche. Son pas ralenti par les entraves est ferme, car il ne veut pas chancer. Le pauvre prêtre, qui pour lui cacher la vue du couteau et lui montrer l'au-delà du ciel, élève son crucifix qui tremble, est aussi blanc que lui. À moitié route, l'infortuné toise la mécanique. « Oh ça, c'est là-dessus » dit-il d'une voix inoubliable. Il aperçoit la grande manne en treillis, béante, en couvercle coudé par une pioche. Mais le prêtre s'interpose, et sur la licence que lui en octroie celui qui va périr, lui donne le dernier embrassement de l'humanité. Ah, lorsque sa mère autrefois le berçait tout enfant le soir, et souriante l'embrassait heureuse et toute fière, qui lui eût montré à cette mère cet embrassement-ci au fond de l'avenir? Le voici debout, en face de la planche. Soudain, pendant qu'il jette un coup d'œil presque furtif sur le couteau, la pesée d'un aide fait basculer le condamné sur cette passerelle de l'abîme. L'autre moitié de la cangue s'abaisse, l'exécuteur touche le déclic, un éclair glisse, plouf, boah, quel éclaboussis. Deux ou trois grosses gouttes rouges sautent autour de moi. Mais déjà le tronc gît précipité dans le panier funèbre. L'exécuteur, s'inclinant très vite, prend quelque chose dans une espèce de baignoire d'enfant placée en dehors, sous la guillotine. La tête, que tient maintenant par l'oreille gauche le bourreau de l'Eura France, est immobile, très pâle, et les yeux sont hermétiquement fermés. Détournant les regards vers le sol, mais que vois-je à quelques pouces de ma semelle? La pointe du couteau-glaive de notre justice nationale effleurait piteusement la sanglante boue du matin.